France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, ce sont les résultats des élections en Israël. Elles confortent le pouvoir en place. Le Likoud et Benjamin Netanyahou disposeraient de près de la moitié des sièges à la Knesset, même si les premiers résultats le placent au coude à coude avec son opposant de la droite modérée, Benny Gantz. Le Likoud pourrait former une coalition avec des petits partis de la droite radicale. Benjamin Netanyahou est lui en bonne voie pour un cinquième mandat. En Algérie, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a été officiellement nommé par le Parlement hier, malgré le désaccord d'une grande partie des Algériens. Il s'est engagé à organiser sous 90 jours un scrutin présidentiel transparent et régulier. Les Algériens continuent de manifester en masse pour réclamer le départ du système. Ils avaient clairement affiché leur refus de voir le président du Conseil de la Nation prendre cet intérim. Et puis à Khartoum, au Soudan, les manifestations anti-gouvernementales continuent. Des attaques continuent également d'être menées par des hommes masqués contre ces manifestants. Elles ont fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Les opposants réclament le départ du président Béchir. Une figure de l'opposition, Sadiq Al-Mahdi, a demandé une médiation des militaires. Le report du Brexit. L'idée se fait de plus en plus concrète pour les autorités européennes et Theresa May. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait le premier évoqué cette option qui paraît possible à Angela Merkel comme à Emmanuel Macron. Un report à quelle date? C'est la question qui sera évoquée sans doute aujourd'hui lors d'un Conseil européen de crise. En France, Édouard Philippe n'a pas convaincu l'opposition parlementaire en venant présenter les enseignements du grand débat national devant l'Assemblée. Après 2 mois de consultation nationale, les décisions que l'Élysée doit annoncer dans les prochains jours seront puissante et concrète, a promis le chef du gouvernement. Enfin, le Parti socialiste à l'initiative d'un référendum d'initiative partagée à propos de la privatisation d'Aéroports de Paris. La droite et la gauche se sont alliés pour réunir le nombre de signatures nécessaires, soit 185. L'étape suivante consiste à réunir 4 500 000 signatures de citoyens français.
Votre Europe avec Radio France. Toutes les radios de Radio France se mobilisent pour les élections européennes. Éclaircissement, décryptage et analyse sur l'Europe et les enjeux du scrutin. Retrouvez sur l'application mobile Radio France une rubrique spéciale Votre Europe qui vous donnera accès à la réécoute d'une sélection de programmes. Votre Europe avec Radio France.
6h02 sur France Culture. Excellent début de journée. Tout de suite le réveil culturel de Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et si notre avenir et l'avenir de nos enfants se jouaient le 26 mai prochain? Bonjour tout le monde. À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent européen. Des artistes, des intellectuels, des représentants de la société civile et du monde politique du continent viendront toute cette semaine donner leur avis, partager leur analyse, notamment à la grande table d'Olivia Gisbert. Et puis ce samedi, le samedi 13 avril, France Culture et la Sorbonne vous proposent un forum placé sous le signe des savoirs. Europe, le moment de vérité. Et c'est à cet effet qu'aujourd'hui, je reçois le cinéaste allemand Wim Wenders. Bonjour Wim Wenders.
Bonjour Toufik Hakem.
Alors aujourd'hui, Wim Wenders, quel genre d'Européen êtes-vous d'ailleurs? Est-ce que vous vous considérez comme Européen?
Je suis Européen de la première heure. Je suis né avec ce désir. Et pour moi, quand j'étais gosse, et quand j'ai vu Adenauer et De Gaulle secouer la main, c'était le plus grand moment historique. Et pour moi, l'Europe était et est restée la plus grande utopie de ma vie.
Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez bien que les Européens sont sceptiques. Vous-même, vous avez été déçu par la construction européenne telle qu'elle se fait aujourd'hui?
J'étais déçu, pas nécessairement au début, parce qu'évidemment, il fallait faire des premiers pas. Les premiers pas, c'était entre la France et l'Allemagne. C'était déjà fantastique pour moi. Et peu à peu, ça s'est construit. Et ça s'est construit surtout dans le domaine de l'économie et dans les finances. Il fallait commencer avec ça. Mais finalement, ce n'était que ça. Et c'est resté ça. Cette Europe est restée une construction économique. La dimension de la culture européenne, c'est vraiment ça. Ce qui nous réunit, c'est tous nos passés, toutes nos histoires, toutes les histoires de guerre, toutes les histoires de nos philosophes, de notre littérature, de notre musique. C'est ça ce qui fait l'Europe. Et cette Europe émotionnelle n'a pas été construite. Et maintenant, c'est ça ce qui manque. Et maintenant, comme il s'agit que de l'argent, les gens ont ras-le-bol. Les gens trouvent, ça les touche pas, cette Europe. Et pour moi, c'est ça le drame de l'Europe, qu'on n'a pas trouvé un moyen de traduire ça dans une nouvelle patrie.
Vis-à-vis des gens qui n'y croient plus, comment vous défendez encore ce qui a été votre rêve, vous venez de nous dire, Wim Wenders?
Je trouve que les gens qui sont fatigués de l'Europe aujourd'hui, ils oublient aussi le passé. Ils ne se rappellent pas ce que c'était avant. Ils ne se rappellent pas que cette Europe de nations qui existait avant, cette Europe de toute pensée nationaliste ou séparatiste, c'était une Europe de guerre et c'était une Europe de sang. Et tous ces gens oublient ça aujourd'hui. Et ils, en mettant en cause cette idée de l'Europe, je trouve qu'on retombe dans quelque chose qui est beaucoup pire et qui était la cause d'une souffrance incroyable pendant des centaines et centaines d'années en Europe, et il ne faut pas retomber dans ça. Il faut plutôt réinventer l'Europe des émotions et l'Europe de nos cultures, et il faut réinventer cette grande toile que l'Europe peut être dans cette mondialisation dans laquelle on vit. Cette toile européenne, ça peut nous protéger mieux que nos petites nations.
Pour vous, c'est quoi la culture européenne, Wim Wenders?
C'est la somme de tous les penseurs, tous les musiciens, tous les architectes, tous les auteurs. C'est la somme de notre histoire. C'est aussi la somme de nos guerres et c'est la somme de nos conflits. Tout ça fait que on a vécu dans ce continent privilégié qui était un peu, pendant des centaines d'années, qui était un peu le berceau de l'humanité, des droits de l'homme et tout ça. C'est ça ce qu'il faut réinventer. Cette Europe des droits de l'homme, cette Europe des pensées, cette Europe de la solidarité et de, qui a été le désir de la Révolution française, parce que égalité, fraternité, liberté, c'est ça ce qui doit être la fondation d'une Europe du futur.
Pour ceux qui disent que toutes les cultures régionales, toutes les cultures de pays risquent de disparaître avec cette uniformisation de la mondialisation d'une part, mais aussi d'une Europe fédérale, quel mot choisiriez-vous pour entrer dans le débat et pour leur dire que ça peut être autre chose, Wim Wenders?
Bon, on se rend compte que pour beaucoup de gens, il y a trop de systèmes globaux. Il y a leur propre pays. Pour beaucoup de gens, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, c'est déjà une législation, c'est déjà une sécurité sociale, c'est plein de choses. Donc, Europe représente une autre structure au-dessus, et puis il y a encore une plus grande structure, c'est le monde. Mais au-dessous du pays, il y a aussi la région. Et la région, c'est ce qui réunit les gens de la manière la plus émotionnelle. C'est ça leur goût et leur cuisine, et c'est ça leur couleur, et c'est ça leur météo. Et tout ce qu'ils représentent, c'est plutôt leur région, et c'est pas vraiment une nation. C'est pas seulement le pays, c'est plutôt leur région. Et très souvent, le pays, c'est déjà l'ennemi de cette région. Et donc, l'Europe, c'est encore l'ennemi le plus grand. Et le monde, c'est le plus grand ennemi de tout ça. Et donc, il faut donc trouver un moyen de lier tout ce que nous lie à nos régions, tout ce qui nous, on sait de quoi on est fait. Ça, c'est représenté dans nos villes ou dans nos régions. Il faut pouvoir lier ça à une structure européenne et pas d'abord à notre pays, et puis à l'Europe, et puis au monde. Il faut trouver un autre système de valeurs entre l'identité, c'est quelque chose de tellement fragile aujourd'hui, l'identité culturelle, l'identité sociale, tout ça c'est déjà en question, et trouver une façon que cette identité qui est plutôt régionale soit protégée, qu'il faut pas une idée nationale, il faut pas la réinvention de tous les petits pays européens pour protéger ça, mais qu'il faut trouver une autre façon pour que l'Europe peut devenir le toit qui protège nos identités et nos régions.
Buonasera.
Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza.
We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison.
En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra.
Alors, Wim Wenders, et là on va arriver à votre actualité, c'est la sortie en DVD de votre documentaire autour du pape François. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit réaffirmer ses racines chrétiennes ?
Oui et non. Les racines chrétiennes, historiquement, dans notre culture européenne, ont été fondamentales à un moment donné. Et notre histoire, si on pense en arrière, au Moyen-Âge, bon, ces racines chrétiennes ont fait beaucoup de mal aussi, ont fait énormément de mal. Ils ont provoqué des guerres infernales en Europe. Mais ça fait partie de ce qu'a fait l'Europe. Mais en même temps, si ça devient le seul fondement, ce serait de nouveau la même catastrophe comme déjà au Moyen-Âge. La pensée chrétienne, tant que c'est à la base de notre culture européenne, ça peut pas être la seule base d'une Europe de l'avenir. Ça peut pas être éliminé, mais à la rigueur, rien ne devrait être éliminé pour faire une base européenne où tout le monde peut se sentir chez lui. On doit commencer à penser que chaque personne est d'abord une personne. Et chaque réfugié est d'abord une personne. C'est quelqu'un avec des droits. Aujourd'hui, nous, en Europe, on commence à penser que c'est nous qui habitons ici, on a les droits d'être ici. Mais pourquoi? À la fin de la guerre en Allemagne, il y avait 10 millions d'Allemands qui venaient d'ailleurs, de pays qui s'appellent maintenant l'Ukraine ou la Pologne. C'était des réfugiés. Ils avaient, pour ainsi dire, avec la pensée d'aujourd'hui, ils n'auraient pas eu même le droit de devenir des Allemands. On oublie trop vite le privilège d'être européen et aussi que ça représente aussi un privilège envers les autres, envers toute l'humanité. C'est pas maintenant un privilège pour ceux qui tout sont ici et on va faire un grand mur. Et on va réjouir de ce privilège, ça c'est ridicule. Ça c'était peut-être le Moyen-Âge, c'était possible au Moyen-Âge, oui, mais plus aujourd'hui.
Vous le savez très bien, Wim Wenders, je pense que Angela Merkel a payé très cher le fait d'accueillir les réfugiés en Allemagne.
Ouais, elle a payé un grand prix. Peut-être sa culture de welcoming, d'accueil, était peut-être un peu naïf tout au début, mais quand même, je suis toujours très fier qu'elle a fait ça. C'était le seul moment dans ma vie que j'étais fier d'être allemand. Quand ça s'est passé, quand 7 millions est arrivé en Allemagne, j'étais au Canada. Le Canada est un pays d'accueil par excellence. Tous les Canadiens viennent d'ailleurs. Et au Canada, dans tous les journaux canadiens, les grands titres, c'était partout. On n'aurait pas cru que les Allemands auraient pu être si généreux que ça. Chapeau. Et ça venait d'un pays qui était donc un pays d'accueil. Et moi, j'étais fier. Je me suis dit, oui, chapeau. J'ai pas vu que c'était peut-être un peu trop optimiste ou un peu trop naïf. Finalement, ça lui a cassé son élan, voilà. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Aujourd'hui, on a peur de chacun qui veut arriver, on veut fermer les frontières. La Méditerranée, qui est un continent libre, pour ainsi dire, est devenue une frontière. Et l'Europe est en train de dénoncer ses propres fondations. Liberté, égalité, c'est une grande chose, et fraternité. On ne veut plus rien entendre de tout ça.
Vous comprenez pourquoi ?
Oui, je comprends. Un peu. Je comprends que ça fait peur aujourd'hui, surtout comme la balance sociale est cassée, en France aussi bien qu'en Allemagne. La pauvreté, même aux États-Unis, c'est même pire. Donc, les Européens, et avec eux, tous les gens du monde, ont peur du fait que le monde devient une seule unité. Et dans cette seule unité, si tous les produits peuvent voyager partout, et si nous, les Européens, on peut vendre nos voitures partout, que donc il y a une liberté du marché, mais les gens, s'il vous plaît, tous ceux qui veulent conduire nos Mercedes, restez dehors. Ça, c'est pas possible. On peut pas vouloir une liberté du marché, on peut pas vouloir accepter la mondialisation. Nous, en Allemagne, on n'a même pas un mot pour ça. On appelle ça la globalisation. Globalization. Vous voyez, c'est tellement effrayant qu'on ne peut même pas prononcer. Mais c'est le fait que le monde devient un seul endroit. Les soucis des gens du monde entier, c'est les mêmes. C'est le climat. C'est la pauvreté. C'est l'injustice. On est les citoyens du même endroit, mais en même temps, dans la politique, on se définit toujours par des nations. Et si on commence à se définir par des nations en Europe, on doit abandonner la notion de l'Europe. Et donc, partout, par peur, toutes ces petites nations commencent à se définir de nouveau comme nations. Et donc, il y a cette idéologie idiotique, America first, maintenant c'est Italy first, France first, Belgium first, Deutschland first. Et ça, c'est la fin de la civilisation. Si dans chaque endroit du monde, on dit « nous d'abord ». Si on dit ça, on va résoudre aucun problème, on va créer des nouvelles guerres infernales, on va créer des injustices encore plus grandes. Et c'est ça ce que tous ces gens, tous ces nationalistes en Europe en ce moment ne comprennent pas, que l'avenir qu'ils sont en train de peindre, de s'imaginer, c'est le passé. Et le passé était une histoire de guerre.
La famille a des difficultés, mais ces difficultés se superent avec amour. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer. No es debilidad lo tener es fortaleza.
Wim Wenders, vous avez parlé de l'Europe avec le pape François.
Ah oui, on avait pas mal de conversations au sujet de l'Europe, et finalement, même dans le montage de 2 heures, il y avait encore une grande partie. Et finalement, j'ai dû couper. Comme c'est un film que j'ai fait vraiment pour le monde entier, pour tous les gens, pas seulement pour des catholiques, j'ai donc enlevé le chapitre sur l'Europe. Et pape François s'est plaint du fait que l'Europe n'accepte pas ses propres responsabilités. Une responsabilité envers sa culture, de la culture, de la musique, de la littérature, de la justice aussi, des droits de l'homme. C'est quand même ici en Europe que cette idée est née. Et c'est ce qui, à son avis et à mon avis aussi, constitue l'Europe. Qu'on a eu toutes ces idées et que toutes ces idées ont produit finalement l'Europe telle qu'on a connue, sauf que dans cette Europe telle qu'on a connue, ces idées ont toujours pris dernier rang. Toutes ces idées de la culture, de la justice, de la fraternité, de l'égalité, c'était toujours des idées secondaires dans cette Europe qu'on a vécue depuis 30-40 ans. La culture, notre culture, et tout ça, ça fait partie de la culture aussi. Les droits de l'homme, ça fait partie de notre culture. Ces questions, c'était toujours secondaire. L'Europe a été fondée avec des notions économiques et financières et pas avec des notions de droit et pas avec des notions de culture.
Êtes-vous arrivé à faire un film sur le pape Wim Wenders? C'était plutôt inattendu. Alors bien sûr, quand on a vu le film, on voit que vous êtes parti de Saint-François d'Assise pour arriver au premier pape qui porte ce prénom. Le fait qu'il vienne d'un continent qui n'est pas européen aussi, ça vous a intéressé. Mais quelles sont les autres raisons?
Mon Saint-François, il a vécu il y a 800 ans. Mais c'était un grand visionnaire et révolutionnaire de l'humanité, pas seulement de l'Église. C'était le premier écologiste du monde. C'était le premier qui a compris il y a longtemps que la balance entre la nature et les hommes commençait à l'époque à être détruite. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Et le pape François, c'est le premier à oser de prendre ce nom d'un grand visionnaire de l'humanité qui a compris que donc c'est pas seulement notre rapport avec la nature, c'est aussi la solidarité avec les sous-privilégiés qui fait que en ce moment on a des soucis sur notre planète parce que la balance entre les riches et les pauvres c'est devenu de plus en plus impossible. Et Saint François a laissé un autre grand héritage. C'est que c'était un homme de paix qui a voyagé en Égypte à l'époque à la plus grande autorité d'islam pour finir les croisades, les guerres les plus sanglantes de l'époque entre les religions. Et donc ces trois choses, l'écologie, la justice sociale et la paix entre les religions, ça c'était un programme incroyable que ce pape a annoncé en acceptant ce nom, en s'appelant François. Et donc, je me suis dit, ça doit être un homme avec un incroyable courage d'affronter les plus grands problèmes de l'humanité en acceptant ce nom. Et il a tenu sa promesse, je trouve. Il a attaqué ces trois grands problèmes.
Et du coup, vous avez fait ce film qui a été, c'est le mot que l'on puisse dire, fraîchement accueilli par la presse. On se souvient même de cette polémique et de votre réponse au quotidien Le Monde, qui vous disait que vous avez fait quand même un film commandé par le Vatican, très bienveillant, et qui ne parlait pas du tout des problèmes qui secouent le Vatican. Mais ceci dit, c'est vrai, on avait l'habitude de vous voir rendre hommage à des réalisateurs comme Nicolas Rey ou à des musiciens. On se souvient de Buena Vista Social Club. Là, on vous trouve dans un registre inhabituel.
Je trouve pas tellement. Je trouve que c'est un incroyable aventurier aussi, cet homme. Comme programme de l'Église, de dire il faut s'occuper de la planète. C'est ça la plus urgente d'aujourd'hui. Je crois que c'est un homme de parole. Il fait ce qu'il prêche et il dit ce qu'il pense. Oui, ça c'est déjà quelque chose, mais il vit aussi ce qu'il pense. On vit quand même dans une époque où la plupart des hommes politiques dans le monde entier, c'est devenu des cyniques.
Mais que l'Église devienne au centre de votre préoccupation, c'est pas un signe que vous ne croyez plus à la politique, à la culture, aux intellectuels, Wim Wenders?
Je ne crois plus à la politique, ça c'est vrai, comme institution morale. La perte d'une moralité aujourd'hui est infernale. Et ça commence à infiltrer toute région de nos vies. Le fait que aujourd'hui, parce que les politiciens le font, mentir, ça devient quelque chose de nécessaire ou acceptable. Et j'ai des problèmes de me confier aux intellectuels aussi. Je voudrais bien qu'il existe un pays en Europe où les ministres soient faits par des experts, par des hommes de culture, par les sociologues, et pas par des hommes de partis et de politiques. Je voudrais bien.
Wim Wenders, est-ce qu'on peut être athée? Vous l'êtes toujours athée? Vous avez vraiment quitté le domaine religieux et être en admiration devant le pape François?
Je vois un homme avec une grande intégrité. Je vois un homme avec un énorme courage de vraiment affronter les plus grands problèmes de notre monde et de créer une transparence dans une institution qui ne l'est pas. Et je ne suis pas contre la religion, je suis un homme religieux moi-même. J'ai quitté l'Église catholique en 68. Évidemment, j'étais un étudiant socialiste. Mais je suis un homme religieux, j'ai converti au protestantisme. Aujourd'hui, je ne suis ni protestant ni catholique, mais je suis un chrétien œcuménique. Et j'ai des grands amis qui sont athées. Et d'ailleurs, ce film que j'ai fait, Pape François, un homme de parole, je l'ai montré à mes amis athées. Et j'en ai vu quelques-uns aux larmes parce que ça les a énormément émus. Et le Pape François leur a parlé au cœur. Beaucoup plus quelquefois que mes amis catholiques. Donc, on a fait un film qui est extrêmement politique aujourd'hui, qui touche des choses qui sont au centre de nos problèmes aujourd'hui, et que le fait que ça vient d'un pape devrait pas déjà être un préjugé de pas voir ce film et de pas accepter que ce mec, il a énormément de courage et que c'est un des rares hommes intègres sur ce planète.
Oui, mais c'est tout à la gloire du pape, alors que vous aviez habitué, Wim Wenders, d'être plus nuancé. Quand vous tourniez vos films avec des humains, ils étaient d'abord des humains avec aussi leurs faiblesses.
Mais oui, c'est pas possible, il a des faiblesses. Les braves musiciens de Buena Vista Social Club, ils avaient des faiblesses aussi. Pina Bausch, il avait des faiblesses. Sebastião Salgado, c'est un homme avec des grandes faiblesses. Quand même, c'est tous des gens, des hommes et femmes que j'admire énormément, qui sont des héros de notre époque, je trouve, dans leur domaine, parce que ils ont osé de maintenir un modèle de moralité et de beauté et de dignité.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Pompéi, un récit oublié. En 79 après Jésus-Christ, l'éruption du mont Vésuve s'apprête à ensevelir les villes de Pompéi et Herculanum. Depuis la base navale de Mycène, Pline l'Ancien décide d'appareiller 12 navires pour permettre aux habitants de fuir par la mer. L'exposition revient sur cet épisode méconnu et s'appuie sur 250 objets archéologiques et une scénographie interactive pour vous permettre de revivre les derniers jours de la cité. Pompéi, un récit oublié, jusqu'au 6 octobre au Musée de la Romanité à Nîmes. Un partenariat France Culture.
Chaque dimanche à 11h sur France Culture, l'Esprit public, Émilie Aubry.
Ce dimanche 14 avril, tous à l'Odéon à 11h, l'Esprit public sera en public et en direct pour un autre regard sur l'actualité politique et géopolitique de la semaine, avec Daniel Cohn-Bendit, Dominique Schnapper, Thierry Pech et Sylvie Kaufmann. Et vous aussi, vous pourrez poser vos questions. Alors venez nombreux, je compte sur vous.
L'Esprit public, en direct et en public ce dimanche à 11h à l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des élections législatives en Israël, tout indique que Benjamin Netanyahou est bien parti pour un cinquième mandat. Le Likoud est en position de former une coalition, même si l'adversaire de centre-droit, Benny Gantz, est au coude à coude. Il y a 100 jours, Jair Bolsonaro accédait au pouvoir au Brésil, mais le président d'extrême droite est rapidement sorti de l'état de grâce, nous dira Agne Vigna. Nous reviendrons sur le dernier rebondissement en date du Brexit. Les Européens pourraient se montrer moins inflexibles qu'annoncé quant à un nouveau report de la date de sortie de l'Union pour le Royaume-Uni. Enfin, la peine de mort dans le monde, elle régresse. C'est ce que constate le dernier rapport de l'ONG Amnesty International. Ce sera très probablement un cinquième mandat pour Benjamin Netanyahou, dont le parti conservateur, le Likoud, remporte selon les derniers résultats les élections législatives en Israël. Face à lui, son principal rival de centre-droit, Benny Gantz, est au coude à coude avec 36 sièges contre 37 pour le Likoud. Dans tous les cas, l'arithmétique des alliances place le Likoud en position de force, ce qui devrait amener Bibi, comme l'appellent les Israéliens, à dépasser le record d'exercice du pouvoir dans le pays, record jusque-là détenu par David Ben-Gourion. Les précisions sur place à Tel Aviv du correspondant de France Culture, Étienne Monin.
Dans une ambiance survoltée, dans une salle dans laquelle on voit des banderoles avec le nom de Donald Trump, après avoir embrassé plusieurs fois sa femme, Benjamin Netanyahou, visiblement très heureux, se dit presque surpris de l'ampleur de sa victoire. D'après les premiers résultats provisoires, le Likoud ferait un score historique, le Premier ministre sortant serait le plus à même de former une coalition appuyée sur les ultra-orthodoxes, une formation centriste et les partis d'extrême droite. Sa stratégie pour siphonner les petites formations radicales a fonctionné. Deux partis de droite qui l'embarrassaient sont menacés de disparition. Il aurait une majorité plus large que sur la dernière élection en 2015. Hier, il a dit qu'il comptait former un gouvernement national stable. Ce sera un gouvernement de droite. Il n'y aura pas donc d'ouverture vers son adversaire du centre, mais dans une formule que peu de gens dans l'opposition vont croire. Il ajoute qu'il compte être le Premier ministre de tous les Israéliens.
Lui est arrivé au pouvoir il y a 100 jours. Au Brésil, Jair Bolsonaro fait face au premier mécontentement. En l'occurrence, plusieurs sondages d'opinion montrent que ces mécontentements sont les plus nombreux pour un président en début de mandat depuis 1985 et le début de la démocratie au Brésil, avec 32% seulement de bonnes opinions sur sa façon de gouverner. Les précisions sur place d'Anne Vigna.
À Rio de Janeiro, il y a toujours des inconditionnels de Jair Bolsonaro, ceux qui ne veulent pas parler de bilan après 3 mois au pouvoir, comme Graciela, une vendeuse ambulante.
Le Brésil est en crise. La majorité ici a voulu un changement et a voté pour Bolsonaro. Il est au pouvoir depuis 3 mois, il ne peut pas faire de miracle. De toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on connaît déjà.
Et puis il y a les déçus, ceux qui, comme Rodrigo, avaient voté Bolsonaro en octobre dernier.
Moi, je crois que Bolsonaro est perdu. Il est président maintenant, alors il essaye de faire quelque chose, mais je ne crois pas que son gouvernement ait un avenir.
Pour ce comptable, ce qui l'a le plus choqué, c'est la publication d'une vidéo pornographique sur le compte Twitter du président pour critiquer le carnaval.
C'était infantile de sa part de publier une vidéo érotique pour être vu par le monde entier. Ce n'est pas une attitude de président de la République d'aller tout le temps sur Twitter quand on a une charge si importante comme président.
La popularité de Bolsonaro a chuté en 3 mois dans son électorat, sauf chez les évangéliques qui lui restent fidèles. Les Brésiliens doutent aussi de sa capacité à améliorer la situation économique et la lutte contre la corruption, deux promesses de sa campagne électorale.
À Khartoum, au Soudan, les manifestations anti-gouvernementales continuent. Des attaques sont menées tous les matins depuis samedi par des hommes masqués contre ces manifestants. Elles ont fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Les opposants réclament le départ du président Béchir. Une figure de l'opposition, Sadiq al-Mahdi, a demandé une médiation des militaires. Jugé impossible, et il y a quelques jours seulement, le Conseil européen de crise qui se tient aujourd'hui à Bruxelles pourrait bien finalement valider l'idée, un nouveau report du Brexit, une nouvelle date butoir, peut-être même plus longue que ce qu'espérait la première ministre britannique. Theresa May est allée rencontrer ses homologues allemands et français hier pour plaider sa cause. Les deux dirigeants ne sont pas opposés à l'idée, mais pour Emmanuel Macron, ce ne sera pas sans condition. Les précisions de Louise Baudet.
La carte postale berlinoise est certes plus détendue, le soleil plus radieux et les sourires plus francs. Mais à Paris aussi, Theresa May a finalement obtenu ce qu'elle voulait, une nouvelle date butoir pour le Brexit. 1er juin, 30 juin ou début 2020, le délai reste à fixer, mais aussi les contreparties. Pas question pour Emmanuel Macron de laisser les Britanniques semer la zizanie. En cas de nouveau report, ils resteront dans l'Union et enverront des députés à Strasbourg. Il faut donc exiger d'eux un code de conduite strict, une clause de revoyure tous les trois mois et la neutralité sur les sujets clés, présidence de la commission ou budget pluriannuel. Condition plus ou moins réaliste, mais le fait est que ni Paris, ni Berlin, ni aucun des 27 n'est prêt à porter la responsabilité d'un no deal. Et tant pis si Theresa May ne présente pas de plan B, qui était la contrepartie jusqu'ici réclamée. Les discussions entamées avec son opposition travailliste, même au point mort, pourraient finalement suffire à justifier le report qu'elle est venue chercher.
Louise Baudet, Guillaume Faury, 51 ans, succède aujourd'hui à Tom Enders à la tête d'Airbus. Ses missions prioritaires, augmenter la cadence de la production, négocier les conséquences du Brexit et celui du virage numérique issu de la filière hélicoptère du groupe, Guillaume Faury n'était pas aux commandes entre 2008 et 2013, une période investiguée par la justice pour des transactions irrégulières. En France, les suites parlementaires du grand débat national. Hier, Édouard Philippe présentait les enseignements de ce grand débat que l'exécutif, en tout cas, a choisi d'en tirer devant l'Assemblée. Il a promis que des décisions de l'Élysée s'en suivraient, puissantes et concrètes, selon ses mots, mais pour l'heure, pas d'annonce et une opposition qui a étrillé l'exécutif. À l'Assemblée, le reportage de Simon Le Baron.
À l'arrivée, c'est lui qui décide. Alors forcément, la cible des oppositions, c'est lui, Emmanuel Macron, violemment critiqué par le chef de file des députés LR Christian Jacob.
18 mois après son élection, M. Macron a perdu la confiance. Et plus grave, il a perdu le respect des Français.
Mais le président n'est pas là et Édouard Philippe n'est pas en reste.
Monsieur le Premier ministre, je connais un bon otorino.
Car vous êtes sourd de l'oreille gauche, lui lance l'insoumis François Ruffin.
Débouchez-vous les oreilles, Monsieur le Premier ministre. Faites péter le cérumen. Enlevez vos boules-tièces, sinon le peuple pourrait bien crier encore plus fort et vous servir d'otorino.
Le chef du gouvernement dit vouloir aller plus loin, plus vite, sans changer de cap. Les oppositions tapent. Marine Le Pen est l'une des dernières à monter à la tribune.
Vous êtes venu devant la représentation nationale pour une restitution des orientations du grand débat en ne disant strictement rien. Mais rien.
Édouard Philippe ne pouvait pas dire grand-chose, contraint lui aussi d'attendre la parole présidentielle.
Parce que c'est la logique des institutions de la Ve République. Et ça ne me posera aucun problème. Au contraire, je suis plus surpris que certains à droite fassent mine de s'en étonner.
Quant à savoir quand Emmanuel Macron annoncera ses décisions, ça non plus, le Premier ministre ne l'a pas dit.
Et puis c'est une initiative inédite, une autre forme d'opposition parlementaire. Le Parti Socialiste a réussi à rassembler 218 voix de parlementaires pour lancer un référendum d'initiative partagée sur le sujet brûlant et polémique de la privatisation d'Aéroports de Paris. Une privatisation en débat depuis 6 mois, dont certains estiment qu'elle serait un cadeau fait à l'entreprise de BTP Vinci. Grâce à ce référendum permis par la Constitution depuis 2008, les députés peuvent invalider cette décision. Mais il faudra d'abord franchir un parcours d'obstacles, validation par le Conseil constitutionnel, puis signature par 1/10 du corps électoral. Inès Madani est jugée aujourd'hui pour association de malfaiteurs à visée terroriste. C'est cette femme qui avait été empêchée à temps de faire exploser une voiture chargée de bonbonnes de gaz tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle comparait ici pour des faits plus anciens, à savoir son rôle de mentor auprès d'aspirants djihadistes. Elle recule lentement, mais sûrement. La peine de mort dans le monde, c'est ce que constate le rapport annuel d'Amnesty International. L'ONG, qui mène campagne depuis plus de 40 ans contre les exécutions, constate que le nombre de ces exécutions a baissé de 31% en 2018 par rapport à l'année précédente, du jamais vu depuis 10 ans. Nadine Epstein.
En 2018, davantage de pays ont rejoint la liste des États abolitionnistes sur pression publique et internationale contre la peine de mort, peine cruelle, superfétatoire, dégradante et sans effet dissuasif. Ainsi, Amnesty International constate que Bahreïn, Bangladesh, Émirats Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Malaisie et Palestine n'ont exécuté aucun prisonnier en 2018, contrairement à l'année précédente. Le Burkina Faso a supprimé la peine de mort dans son nouveau code pénal. La Gambie et la Malaisie ont déclaré un moratoire officiel sur les exécutions. Dans l'État américain de Washington, la loi sur la peine de mort a été décrétée inconstitutionnelle. Dans le même temps, d'autres pays agissent à contre-courant de la tendance mondiale en pratiquant davantage de mises à mort. Le rapport d'Amnesty classe l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et l'Irak en tête des pays qui exécutent. À eux quatre, ils représentent 78% de toutes les exécutions recensées à l'échelle mondiale, hormis la Chine, où les exécutions sont secret défense. Il reste encore plus de 19 000 condamnés dans les couloirs de la mort dans le monde.
Le temps de ce mercredi pluvieux au nord, menaçant au sud, comptait ce matin entre 3 et 8 degrés en général, 10 à 17 degrés cet après-midi. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Dans votre journal des idées ce matin, pour contenir les dérives du système financier et pallier l'impuissance des États, le répertoire d'actions citoyennes s'étoffe de jour en jour.
Eh oui, alors dernier exemple en date de ces dérives, d'abord le montage financier mis en place par la Banque mondiale face à l'épidémie de virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Dans les pages idées de Libération, Guillaume Lachenal décrit ce dispositif consistant à émettre des obligations pandémie pour lever des fonds utilisables en cas d'épidémie dans des pays du Sud. Le principe était d'utiliser les marchés financiers comme une assurance. Des investisseurs prêtent des fonds utilisables immédiatement en cas d'épidémie, les fonds étant alors perdus pour les investisseurs. En l'absence d'épidémie, les investisseurs récupèrent leur mise à l'échéance du contrat en ayant entre-temps empoché des intérêts. Mais le bilan s'avère peu reluisant. Sur 140 millions de dollars, seule une vingtaine a servi à lutter contre la maladie. Le reste a été remboursé au fonds d'investissement avec les intérêts. Pourtant, l'épidémie s'est bien développée, mais les conditions générales de vente stipulaient pour que l'obligation se déclenche, c'est-à-dire pour que les investisseurs perdent leur mise, que l'épidémie dépasse 250 cas, ce qui est fait depuis longtemps, et qu'elle franchisse au moins une frontière internationale, ce qui n'a pas eu lieu. Tant pis pour les malades congolais, aussi nombreux soient-ils. Leur reste l'espoir pervers que l'épidémie gagne l'Ouganda voisin. Quant au médecin qui avait imaginé le dispositif, il a démissionné en janvier pour rejoindre un fonds d'investissement. Et tant qu'on crève au Congo, ça fait un bruit de tiroir-caisse. La dernière livraison de la revue Mouvement est consacrée à la lutte contre la finance. Depuis le mouvement Occupy Wall Street, les pratiques militantes se sont développées en prenant acte de la transformation du capitalisme. Ce n'est plus le patron qui est l'interlocuteur dans le cadre traditionnel du conflit social, mais l'investisseur, actionnaire, prêteur, assureur. Il s'agit désormais de retourner contre elle-même les logiques spéculatives de la finance. Des mobilisations d'endettés, étudiants ou expulsés de leur logement, aux citoyens exigeant de leurs élus qu'ils cessent d'obérer l'avenir des populations en recourant à des emprunts toxiques, en passant par les subalternes d'Inde du Sud ou les Indiens Sioux contraignant des multinationales de la finance à se désengager d'un projet de l'oléoduc au Dakota, la réussite des mobilisations dépend de l'adéquation du diagnostic et des instruments de lutte aux défis que pose le capitalisme financier, d'où l'importance du travail de prospection de l'information financière, plus accessible qu'on ne l'imagine en raison de son caractère stratégique pour la bonne marche du système. Aurélie Vandels observe l'émergence d'agences l'absence de notation alternative. Plus soucieuse du respect des droits humains ou de l'environnement que de rentabilité, leur objectif, adresser un message aux investisseurs selon le principe du name and shame, mais aussi les informer sur les risques d'exploitation, rappel de produits, accidents environnementaux, les problèmes de sécurisation des données ou de comportement légal, prompt à se diffuser dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Des critères qui ont un impact sur la santé financière des entreprises visées. 53% des actions des sociétés touchées par de tels épisodes n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant-crise un an après qu'elles se soient produites. L'article évoque également le mouvement de grève massif des remboursements par les étudiants surendettés aux États-Unis qui a contraint en 2016 le gouvernement à effacer leurs créances auprès d'établissements véreux qui avaient abusé du recours aux prêts à des taux prohibitifs. Les parlementaires viennent de rejeter la privatisation d'Aéroports de Paris. Leurs soupçons, une privatisation cousue sur mesure pour le groupe français en compensation de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, rapporte Le Monde. La cession d'ADP imposée par la loi Pacte n'a pas seulement le tort de satisfaire les intérêts privés d'un capitalisme de prédation, estime la philosophe Barbara Stiegler dans l'hebdomadaire Le 1. Elle s'inscrit aussi symboliquement dans l'agenda du néolibéralisme, promouvoir le monde prétendument ouvert de la compétition jusque sur les zones frontalières traditionnellement réservées à la souveraineté. Pour le géographe Jacques Lévy, qui évoque les revenus des boutiques duty-free, on peut se demander si c'est une bonne idée que l'État soit vendeur d'alcool, de cigarettes et de parfums. En revanche, la mobilité est typiquement un bien public, coproduit par celui qui le propose et par celui qui en dispose. La société en paye une partie pour que tous les citoyens puissent y avoir accès. C'est la forme actuelle de la coproduction de biens publics. À l'âge de l'étatisme, tend à succéder l'âge du contrat. Là, nous avons encore quelques pouvoirs sur nos conditions de vie. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la campagne européenne de Matteo Salvini.
Et oui, avec cette internationale souverainiste, c'est la formule trouvée par la Repubblica pour qualifier cette alliance des droites radicales lancée par Salvini lundi pour les élections européennes. Le ministre de l'Intérieur et chef du parti d'extrême droite, la Ligue, qui tente de fédérer autour d'un objectif constitué, je cite, le groupe le plus important au Parlement européen. Sur quelle ligne, avec quelle chance? On en parle avec vous, Pascal Delwitte, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, co-auteur de l'ouvrage Les partis politiques en Belgique. Alors, pour l'Europe, là, le but, c'est de fédérer les deux ou trois autres formations de droite autour du groupe Europe des Nations et des Libertés dont fait partie la Ligue et le Rassemblement National. Là, ils sont quatre partis à avoir lancé leur campagne lundi avec la Ligue. Il y a également les Vrais Finlandais, le Parti populaire danois et la AFD allemande. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, vous, c'est cette alliance des partis nordiques et d'Europe du Sud, ou le fait qu'on ait seulement 4 partis sur les 34 des principales formations de droite là?
Je dirais que l'ambition de Salvini, c'est d'élargir et essayer de fusionner les deux groupes qui rassemblent principalement les droites radicales aujourd'hui. Et c'est également que les droites radicales présentes dans le groupe des conservateurs et réformistes européens rejoignent cette nouvelle alliance. Et donc son ambition au meeting de Milan, c'était surtout de convaincre effectivement les deux partis de droite scandinave et l'AFD de bien être dans la démarche. Ça semble possible. En revanche, l'invitation qui a été lancée aux démocrates suédois a jusqu'à présent reçu une fin de non-recevoir. Donc l'ambition fondamentale, c'est d'apparaître comme la force qui monte et de s'imposer comme un groupe qui compte, le troisième, le quatrième ou le cinquième du Parlement européen en fonction des résultats.
Et alors, pour savoir à quoi on a affaire, justement au Parlement, je disais, il y a trois partis de droite radicale ou droite eurosceptique, que sont l'Europe des Nations et des Libertés, le groupe CRE, conservateur et réformiste européen, et puis l'Europe de la Liberté et Démocratie directe, qui font ensemble une 140 députés, à peu près. Mais là-dessus, l'ENL est le plus petit de ces partis. Pourquoi vouloir fédérer à partir de lui?
qui veut fédérer à partir de lui, dans la mesure où, en 2014, l'échec notamment a amené l'AFD dans l'ENL était surtout lié à des questions de personnes. Et puis, il y a une grande nouveauté dans le groupe des conservateurs et réformistes européens, c'est a priori le départ du plus grand parti de ce groupe, c'est-à-dire le Parti conservateur britannique. Donc, en tout état de cause, il y avait des réflexions à droite et à la droite de la droite sur quelle nouvelle configuration, à la lumière de la poussée des partis de droite radicale depuis 5 ans, à la lumière du départ annoncé du Parti conservateur britannique du Parlement européen, et d'essayer de reconfigurer un grand groupe qui puisse essayer de frapper les imaginations et qui, bien sûr, dans le cadre d'un grand groupe, bénéficiera des effets d'un grand groupe, c'est-à-dire plus de moyens, plus de temps de parole, plus de postes dans les commissions parlementaires, plus de capacité à influer sur les nominations de personnes, par exemple.
Et d'ailleurs, vous parliez des Britanniques, là, la question va se poser différemment, puisqu'il faudra voter, ils voteront également pour les européennes, hein, on l'a appris hier, il y aura donc des députés sans doute Brexiteurs, et puis alors c'est 159 hein, députés au total pour ces partis. On a aussi beaucoup évoqué dans les articles les divergences et convergences de ces groupes, de ces partis, pardon, sur les valeurs, sur l'immigration, sur l'économie, la diplomatie. Quand Salvini propose une Europe des peuples qui relève la tête et qu'il parle du contrôle des frontières, est-ce qu'il choisit là le plus petit dénominateur commun en fait entre eux?
Les deux plus petits communs dénominateurs de ces partis, c'est d'une part une position nationaliste, ce qu'on qualifie de souverainiste, c'est-à-dire hostile à un approfondissement de l'Union européenne et très certainement à un cours fédéral de l'Union européenne, et deuxièmement le rejet de l'autre, surtout le rejet des immigrés, le rejet des demandeurs d'asile. Donc ça, c'est vraiment les deux grands thèmes fédérateurs des droites radicales. Après, il y a bien sûr énormément de différences entre eux. On peut relever très certainement les questions socio-économiques avec des postures qui vont d'un social chauvinisme à une position très libérale. Et de manière très notable aussi, et c'est assez logique pour des partis nationalistes, des différences très importantes en matière de relations internationales. Certains très tournés vers les États-Unis, d'autres au contraire plus tournés vers la Russie, par exemple.
Même si Matteo Salvini effectivement a dit qu'il se tournerait aussi bien vers les uns que vers les autres, mais ce serait difficile pour la Lega proche de la Russie d'aller convaincre d'autres partis conservateurs, par exemple polonais. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aussi interne à ces partis souverainistes? C'était Alexander Goland de l'AFD qui le disait. L'Union européenne n'est pas un État, elle n'a pas besoin de Parlement, mais tant que le Parlement existe, nous voulons avoir de l'influence. Au fond, jusqu'à où ils peuvent tenir ensemble?
Ils peuvent tenir ensemble dans une logique de rejet. Ce qui oriente une politique de rejet est assez simple. Rejet de l'union des bureaucrates, rejet de l'union fédéraliste, rejet des immigrés, rejet d'une Europe qui accueille l'immigration. En revanche, dès qu'il s'agit d'être dans une logique d'édification, de bâtir et de programme commun, très vite, il y a des différences à l'intérieur même de l'Union européenne. On peut d'ailleurs observer des différences notables. Un parti comme le Parti des vrais Finlandais, qui était au meeting de Milan, c'est un parti, par exemple, est totalement hostile à toute forme de solidarité intra-européenne et donc notamment à toute forme de solidarité intra-européenne vers les États d'Europe du Sud, chose que ne vont pas facilement accepter la Ligue du Nord, le Rassemblement national français, ou a fortiori des partis portugais, espagnols ou grecs, par exemple. Donc, dès que vous rentrez dans la logique du choix des politiques publiques, les différences vont s'exacerber, entre autres parce que c'est des partis nationalistes.
Et va se poser aussi peut-être la question du leadership, puisque pour l'instant, je le disais, c'est l'ENL, l'Europe des Nations et des Libertés, duquel font partie le Rassemblement National et la Ligue de Matteo Salvini. Il y a donc cette série de rassemblements milanais de Salvini, qui a promis un autre rassemblement le 18 mai à Milan, où il y aurait 15-20 pays, et parallèlement une tournée européenne de Marine Le Pen, qui ira en République tchèque, Slovaquie, Belgique. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre ces deux démarches, finalement?
Il n'y a pas d'incompatibilité, et au demeurant, la Ligue du Nord et le Rassemblement national font déjà partie du même groupe au Parlement européen. Après, il faut bien observer que c'est les deux sur le plus emblématique des droites radicales. Deux figures emblématiques venant de deux pays importants, l'Italie d'un côté et la France de l'autre. Et bien évidemment, il y a quand même une forme de course au leadership entre Macron, qui est dans le vent depuis que la participation de la Ligue au gouvernement est assurée et qu'il a passé un peu comme un tour du gouvernement. Et Marine Le Pen, qui a récupéré depuis son échec à l'élection présidentielle de 2017 et qui essaye aussi de fédérer autour d'elle, et d'atteindre cet objectif symbolique qui, dans le cadre français, est de battre la liste de la République en Marche.
Et cet objectif de 15-20 pays représentés, il est atteignable selon vous? Là, c'est intéressant de voir les pays qu'elle va visiter, Marine Le Pen, et les partis, un ancien allié du Front National, ex-Front National, le Vlaams Belang, mais aussi, on pourrait dire, des partis dont on parle peu en République tchèque et Slovaquie.
Oui, il y a des partis, je dirais, relativement historiques, hein, comme effectivement le Vlaams Belang, qui est un parti assez vieux et avec lequel le Front National entretient depuis toujours de très bonnes relations. Et puis, il y a ces dernières années le développement de nouveaux partis en Europe centrale et orientale, que ce soit en République tchèque, que ce soit en Slovaquie. Il peut aussi y avoir des discussions avec des partis polonais et des partis hongrois. Et donc, chaque parti est bon à prendre, et en particulier, chaque parti qui obtient des sièges au Parlement européen est important parce que chaque siège supplémentaire, je dirais bien sûr, par définition, renforce le groupe et donne aussi le sentiment, je dirais, de mouvement. Hein. On sent bien que dans le chef des partis de droite radicale, il y a cette volonté très forte de donner le sentiment l'acteur qui monte face à une époque qu'il considère comme décadente et pour le retour de ce qu'ils appellent la parole du peuple et la parole de la nation.
Et vous le disiez aussi, vous parliez d'Europe centrale, même un appel du pied assez clair de Matteo Salvini, on pourrait dire au PIS de Pologne, avec cette citation, le projet d'alliance s'inspire du rêve de Saint Jean-Paul II qui reconnaissait la diversité des cultures et des nations. C'est sûr que il y a une opportunité à saisir. Sur juste les possibilités de gagner, il y a eu plusieurs sondages faits, notamment un officiel au Parlement européen qui disait 1/5 des sièges, ça ne va pas bouger, même s'il y a d'autres projections qui donne quand même l'ensemble de ces trois partis en légère hausse, qui pourrait éventuellement être à concurrence avec le Parti populaire européen.
Alors, a priori, mais il faut toujours être prudent, parce que l'élection, ce n'est pas des électeurs, mais a priori, l'ordre PPE et sociaux-démocrates premier et deuxième semblerait rester. Oui. La question qui va se poser est plutôt fixée sur le troisième groupe, et là, c'est l'ALDE qui est en ligne de mire. Après, il y a aussi des questions qui restent en suspens, et en particulier d'éventuelles négociations avec d'autres grands partis. Hein. On sait qu'il y a des discussions informelles entre Droit et Justice de Pologne et certains responsables de cette alliance. Il y a également des discussions avec le Fidesz de Viktor Orban et cette alliance. Bien évidemment, si d'aventure des partis comme le Fidesz et le parti comme Droit et Justice de Pologne devaient rejoindre l'alliance, là, vous rentreriez dans une logique où cette alliance pourrait viser la deuxième place et s'imposer comme un des grands groupes.
Oui,
en tout cas, tous, même si d'aventure ils ne deviennent que troisième, ce serait déjà une performance et ça va bouleverser les négociations assez classiques qui s'opèrent entre les sociaux-démocrates, les conservateurs et les libéraux au lendemain des élections européennes.
À suivre alors. Merci beaucoup, Pascal Delvitte, pour vos explications. Merci.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture et le Théâtre de la Ville vous invitent à passer une journée exceptionnelle avec André Malraux et le Général de Gaulle. Rendez-vous ce dimanche à partir de 15h à l'Espace Cardin à Paris pour assister à l'enregistrement de la pièce radiophonique adaptée par Guillaume Erner du livre d'André Malraux « Les chaînes qu'on abat » avec Gérard de Sarthe et Robin Renucci. Réalisation Baptiste Guiton. La pièce sera suivie d'un débat animé par Guillaume Erner et Emmanuel Laurentin. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
France Culture présente le cycle Nacera Bellaza. À l'occasion de la présentation de sa nouvelle pièce, Le Cercle, Nacera Bellaza propose à la MC 93 un parcours choisi dans son répertoire à travers une suite chorégraphique composée de trois pièces, La Nuit, La Traversée et Sur le Fil, portée par 1 à 4 interprètes. Un univers au pouvoir de fascination durable. Nacera Bellaza, du 10 au 20 avril, à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Un partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Question cruciale, faut-il être né avec une cuillère en argent dans la bouche pour être journaliste?
Eh oui, c'est une vraie interrogation. Elle est posée dans le journal Libération. Libération est-il un journal rédigé par des enfants de CSP+, qui ont tous fait des études dans les mêmes villes et les mêmes écoles? S'en est suivi un débat avec différents protagonistes, notamment Daniel Schneiderman. Un vrai débat, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est une question qui interroge les fondements même de la sociologie. D'après les résultats de l'enquête donc faite dans Libération, une majorité de journalistes sont nés dans des familles bien dotées en capital social et ou culturel. C'est ainsi que sur un échantillon de 112 personnes, seuls 31 journalistes de Libé, donc un petit tiers des répondants, n'ont aucun parent CSP+. On note notamment une surreprésentation des enfants de profs. Alors, je n'ai pas fait l'enquête à France Culture. Il se pourrait fort bien qu'on trouve les mêmes résultats, même si certains dispositifs au sein de Radio France encouragent la mixité sociale. Par exemple, le fait que seuls les étudiants boursiers sont admis en contrat d'alternance. En admettant, en tout cas, que les journalistes soient majoritairement filles et fils de bourgeois, qu'est-ce que cela dit sur la manière de voir le monde de ces dix journalistes? Eh bien, à cette question, il existe deux fausses réponses. La première, c'est ce qu'on appelle le déterminisme, le sociologisme. Elle consiste à dire que l'on n'est finalement que le prolongement de son milieu et que les fils de bourgeois sont condamnés à reproduire la vision du monde de la bourgeoisie. On connaît l'objection traditionnelle adressée à cette règle. Tous les penseurs révolutionnaires ou presque sont des filles et des fils de bourgeois. Mais à l'inverse, si aucun déterminisme social n'existe, s'il n'y a pas de régularité observable dans la société, à quoi bon faire de la sociologie? Pourquoi ne pas remplacer la sociologie par une multitude de récits de vie, comme si la société n'était agitée que par des mécanismes aléatoires? D'autant qu'il n'y a finalement pas de grande surprise dans le fait de découvrir que les journalistes recrutés désormais à Bac+5, soit comme les autres étudiants, plutôt fils de CSP+, on peut le déplorer, il faut le constater. Mais pourquoi cela générerait-il une même vision du monde? La question n'est pas seulement le point de départ d'ailleurs, elle est aussi le point d'arrivée. Et là, les chiffres sont imparables. Parmi les titulaires de cartes de presse, un quart aujourd'hui sont des précaires. Parmi ceux qui vivent de piges et qui n'ont pas tous des cartes de presse, ils sont un peu moins de 20 000, qu'il faut comparer avec les 35 000 cartes de presse, eh bien, ceux qui vivent de piges touchent un peu moins de 1 000 euros par mois. Voilà pourquoi, en matière de diversité dans les médias, il ne faudrait pas que l'éditorialiste cache les journalistes, ou pour employer le vocabulaire de la critique des médias, que le chien de garde cache les chiens errants.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Netanyahou et le Likoud donnés vainqueurs des législatives en Israël, selon les projections des médias. On continue à en parler dans le journal et en compagnie de notre invité Jean-Pierre Filiou. 7h passées d'une minute sur France Culture.